Bienvenue à cette conférence hebdomadaire des Nations Unies RDC. À la une de cette conférence de presse, les activités des composantes de la MONUSCO, les activités de l'équipe pays avec notamment Joseph Potopoto pour le volet développement. Et puis nous recevons le directeur national du PAM, Martin Olsen, pour le volet humanitaire. Enfin, nous aurons depuis Goma le colonel Félix Porcer-Basse qui va nous présenter quelques éléments d'information sur la situation militaire du pays. Et puis enfin, depuis Goma, nous aurons également M. Jérémy Guillet, le patron de Peace One Day, qui prépare à Goma, comme vous le savez, un concert pour la paix dans la région des Grands Lacs. Voilà pour les titres de cette conférence de presse que nous ouvrons donc tout de suite avec les activités des composantes de la MONUSCO. Bureau du représentant spécial du secrétaire général en RDC, Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, a entamé hier une visite dans l'est du pays avec pour objectif de visiter les îlots de stabilité au nord et au sud Kivu, une quinzaine d'îlots de stabilité qui vont graduellement être mis en place pour renforcer l'autorité de l'État dans les régions libérées de la présence des groupes armés. Monsieur Kobler se rendra ensuite au Katanga pour renforcer les messages de paix entre les communautés Baloubakat et Pygmé qui s'affrontent régulièrement depuis quelques semaines déjà. Par ailleurs, le bureau de représentant spécial nous informe que le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, donc Monsieur Saïd Jin, sera en visite officielle dans la région du 20 août au 15 septembre prochain. Il s'agit de sa toute première visite dans la région depuis sa nomination. L'objectif de cette tournée qui commence par Nairobi, où se trouve son bureau, est de se mettre en contact avec les différentes autorités de ces pays et de rencontrer aussi les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. Au titre de la section protection de l'enfance, entre le 12 et le 15 août dernier, le chef de la section protection de l'enfance a effectué une visite à Beni. Après avoir été informé qu'au moins 18 femmes et enfants précédemment associés aux groupes armés ougandais ADF, comme otages dépendants aux combattants, ont été retrouvés cachés dans la forêt dans un état physique grave. Certains étaient presque mourants à cause de la faim, d'autres blessés, voire malades. Au cours de cette mission, des sessions de travail ont été tenues avec les FRDC, le maire de la ville de Beni, les leaders communautaires, les partenaires nationaux et internationaux, afin de discuter donc de la situation des enfants précédemment associés au groupe armé ADF qui ont été abandonnés et sauvés au cours des opérations militaires des FRDC dans les zones libérées du parc de Virunga. Le principal résultat a été l'engagement des FRDC et de la MONUSCO à mettre en œuvre l'opération sauvetage pour rechercher activement et sauver les personnes vulnérables qui se trouvent dans les zones libérées afin qu'ils puissent recevoir des soins appropriés et l'assistance humanitaire. Par ailleurs, à Moutaroulé, la localité située dans le territoire d'Ouvira au sud Kivu continue d'être le théâtre d'un conflit interethnique. Quatre enfants banyamoulengués de la même famille et leurs parents ont été tués par des hommes armés non identifiés. Cet incident intervient après les massacres du 6 et 7 juin dernier, au cours desquels 36 personnes, dont 4 garçons, 4 filles et un bébé, avaient été tués. Un garçon de 14 ans a été mutilé lors d'une attaque par des éléments armés des groupes ethniques Barundi et Banyamulenge contre les populations civiles Bafuliru et Amutaroulé dans le territoire d'Ouvira. Par ailleurs, une plateforme de protection de l'enfance appelée Synergie a été créée par les autorités de l'État dans le but de renforcer la capacité d'assurer la protection, une protection efficace des enfants touchés par les conflits armés. Pour ce qui concerne la lutte contre l'impunité, le 9 août dernier, le colonel Abarugira Marcel, commandant des Mai Mai Nyatura, a été arrêté par les FRDC à Rubayo, territoire de Masisi, et est actuellement en détention à Mushaki, en territoire de Masisi. Donc, Abarugira est accusé d'enrôlement et d'utilisation d'au moins 115 enfants, selon les statistiques de la section protection de l'enfance de la MONUSCO, et donc du 1er janvier au 31 décembre, et un mandat d'arrêt avait été émis contre lui par le ministère de la Défense suite à une demande faite par la MONUSCO. Ensuite, du 11 au 15 août dernier, la section protection de l'enfance de la MONUSCO a documenté 43 cas d'enfants victimes directes de violences liées au conflit. 20 garçons se sont échappés des groupes armés, 3 parmi eux étaient blessés par balles, 6 garçons et 3 filles ont été tués, 6 garçons ont été enlevés et 5 filles violées. Ces chiffres ont connu une augmentation considérable par rapport à la semaine précédente où 18 cas avaient été documentés pour des raisons d'accessibilité dans certaines zones, comme par exemple les zones libérées récemment des combattants de l'ADF dans le territoire de Béni, où l'opération Sokola est presque à sa fin. Ce qui permet donc de faciliter les missions de terrain afin de documenter les cas d'enfants associés aux groupes armés. Appui à l'administration pénitentiaire à présent, à Kasumbalesa dans la province du Katanga, l'appui à l'administration pénitentiaire a pris part au lancement d'un projet à impact rapide visant à réhabiliter la prison afin d'améliorer les conditions de vie des détenus en réduisant la population carcérale. Ce projet est également destiné à améliorer la sécurité de la prison avec la construction de bâtiments solides. L'unité d'appui à l'administration pénitentiaire, ensemble avec l'unité de génie de la MONUSCO, a supervisé la construction en cours d'une section réservée aux femmes à l'intérieur de la prison d'Ouvira. Ce projet vise à protéger les femmes détenues contre les co-détenus de sexe opposé, conformément aux normes internationalement reconnues. Police de la MONUSCO, utilisation de deux numéros verts de la SOLIB et son impact sur la situation sécuritaire à Béni. Lancé le 21 juillet dernier dans le cadre de la stratégie opérationnelle intégrée de lutte contre l'insécurité à Béni SOLIB, les deux numéros verts Vodacom tout d'abord 082 080 005 et RTL 099 80 09 910 constituent un ouf de soulagement pour la population de Béni qui, jusque-là, était confrontée à d'énormes problèmes d'insécurité. Approchées, les autorités civiles, militaires, policières notent que le niveau de l'insécurité a considérablement baissé par rapport à celui qu'il était dans un passé récent. S'adressant à la population au cours d'un point de presse tenu mercredi dernier, le maire de la ville de Béni a jugé que la situation sécuritaire est à ce jour stable dans sa ville. Selon lui, cette stabilité est due aux efforts conjoints des FRDC, de la PNC, la police nationale congolaise, et de la police de la MONUSCO dans le cadre donc de l'opération SOLIB. Les autorités policières avancent que maintenant la quasi-totalité de leur intervention est consécutive aux appels de ces deux différents numéros. Elle ajoute que le centre reçoit en moyenne 15 appels par jour. Section genre, la section genre de la MONUSCO à Bukavu a conjointement avec les sections droits de l'homme, d'appui à l'administration pénitentiaire, de l'information publique et du ministère provincial de la justice, participé à une mission conjointe d'évaluation à la prison de Kalehe dans le territoire de Kalehe au sud Kivu. L'objectif de cette mission était de faire une évaluation des conditions globales de détention. L'objectif spécifique était de parler avec les femmes détenues et de leur demander des informations sur les conditions générales de leur incarcération et en particulier sur les conditions de santé. À Goma, conjointement avec la section VIH-SIDA, la section genre a procédé à des cycles de formation sur les questions genre et son intégration au sein de la mission et en particulier auprès des contingents nouvellement déployés dans les territoires du Nord Kivu. Le but de ces activités était d'accroître leur connaissance et leur sensibilité, la sensibilité des casques bleus donc, sur ces questions de genre et de les conseiller sur son intégration dans toutes leurs activités afin d'améliorer et de renforcer la sécurité dans leur zone de responsabilité pour protéger les femmes contre les violences basées sur le genre et la violence sexuelle. Voilà, c'est tout pour les activités des différentes composantes de la MONUSCO. Nous ouvrons une autre page de cette conférence de presse avec les activités de l'équipe payée. Nous disons bonjour à Joseph Potopoto.
Bonjour Charles.
Alors, quels sont les points saillants de l'activité en matière de développement que vous retenez cette semaine?
Juste une seule information relative à la célébration le 23 août prochain de la Journée mondiale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Cette journée revête une force particulière en 2014, année du 210e anniversaire de l'indépendance des Haïti et du 20e anniversaire du programme éducatif et culturel de l'UNESCO. Dans un message diffusé à cette occasion, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, précise que la transmission de cette histoire est une condition essentielle de toute paix durable fondée sur la compréhension mutuelle des peuples et la pleine conscience des dangers du racisme et de préjugés. Cette journée nous aide également à mener les combats continus contre les formes modernes d'esclavage et de traite des êtres humains dont souffrent encore aujourd'hui plus de 20 millions de personnes dans le monde. Notez aussi qu'à ce jour, l'UNESCO participe activement à la création d'un mémorial permanent en hommage aux victimes de la traite transatlantique des esclaves. Ce mémorial sera installé au siège des Nations Unies. Vous aurez les textes de la déclaration de la Direction générale de l'UNESCO à la fin de la conférence de presse. Merci.
Voilà, merci à Joseph Potopoto pour ces informations concernant l'UNESCO. Comme je vous l'annonçais au début de cette conférence de presse, nous avons avec nous pour le volet humanitaire le directeur national du PAM en RDC, M. Martin Olsen. Bonjour, M. Olsen.
Bonjour.
Vous êtes en fin de séjour et vous avez tenu à faire un bilan des activités du PAM en RDC. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce bilan?
Oui, merci beaucoup pour avoir l'occasion de parler aux amis de la presse. Oui, alors que je me prépare à quitter ce grand pays, je tiens à m'adresser à vous, journaliste et auditeur des radios Okapi, pour faire le point sur cette passionnante période que je puis passer ici, dans le pays, environ 33 années. Je tiens aussi à saluer la tenue de cette conférence de presse des Nations Unies, qui réunit à la fois la MONUSCO et toutes les agences des Nations Unies travaillant en RDC. Vous voyez que le travail en collaboration fonctionne très très bien. Je quitte la RDC avec, je dois avouer, une certaine fierté. Nous avons en effet réussi à fournir de l'aide alimentaire vitale à des millions de personnes qui se sont retrouvées dans des situations exceptionnellement difficiles, comme par exemple les personnes déplacées à cause des conflits armés. Dans l'est du pays, nous avons concentré nos activités dans la lutte contre la malnutrition, particulièrement dans le Deux Kassai, jusqu'à la fermeture malheureusement de nos bureaux en 2013 à cause des contraintes financières. Nous avons de plus fourni des assistances aux réfugiés centrafricains dans le camp du Nord de la province de l'Équateur. Nous avons réussi à innover à travers des activités telles que le P4P, en français Achat pour le Progrès, un partenariat avec la FAO et des autres partenaires dans le Katanga et des Équateurs. Ce projet permet aux petits producteurs, avec des intrants, des semences, des outils et aussi un programme d'alphabétisation, d'augmenter leur production. Une autre innovation est ce qu'on appelle les bons d'achat. Vous savez, il y a des zones où les problèmes de malnutrition ne sont pas dus à la disponibilité des aliments, mais plutôt et plus grave dans la pauvreté de pouvoir d'achat des personnes vulnérables. Alors, au lieu de simplement donner des vivres, le PAM distribue et bénéficie des bons d'achat avec lesquels ils peuvent acheter la nourriture tout en stimulant l'économie locale. Nous avons mis en place ce type d'activité dans le nord du Kivu, le Katanga et en Équateur dans les camps des réfugiés. Je tiens absolument à remercier sincèrement le gouvernement de RDC ainsi que les autorités provençales qui nous ont épaulés dans nos missions. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude envers nos bailleurs de fonds, les ONG internationales et nationales qui sont nos partenaires indispensables sur le terrain et bien sûr nos partenaires indispensables pour les agences Nations Unies qui collaborent normalement très étroitement avec la MONUSCO. Je quitte la République démocratique Congo le mois prochain avec beaucoup d'espoir pour ce pays gigantesque, fascinant et riche d'un énorme potentiel. J'ai appris beaucoup et je tisse de belles amitiés. C'est donc avec un pincement au cœur que je prends la route pour mon nouveau poste à Rome en Italie. Je doute pas que mon successeur, M. Pablo Recalde, je vous dévoile donc son nom, viendra avec grand plaisir de présenter à vous dès son arrivée. Merci beaucoup.
Merci donc à M. Olsen et on vous souhaite une excellente fin de séjour ici en RDC. Nous continuons quant à nous cette conférence de presse avec Goma. Nous allons retrouver, comme j'ai l'habitude de le dire, toujours fidèle au poste, le colonel Bass. Colonel, bonjour. Pouvez-vous nous faire un point rapide de la situation militaire du pays au cours de ces 7 derniers jours?
Oui, merci Charles. Bonjour à vous. Bonjour à tous les collègues de Kinshasa et aux auditeurs de Radio Okapi. Comme d'habitude, nous commençons par l'ouest de la République démocratique du Congo. Pendant la période sous-examen, la situation sécuritaire a été relativement calme car aucun incident majeur n'a été répertorié. En province orientale, les troupes onusiennes et congolaises maintiennent une forte pression militaire sur les éléments de l'armée de résistance du Seigneur LRA, auteur de nombreuses exactions contre les populations civiles dans certaines localités situées dans les districts de Haut et de Bawele. Dans la nuit du 12 au 13 août 2014, des éléments supposés appartenir à la LRA ont investi le village Billy, situé à approximativement à 120 km à l'ouest d'Ango, en territoire de Bondo. Ils ont tué un individu, pillé les denrées alimentaires et kidnappé un certain nombre de personnes. Les unités de l'armée congolaise déployées dans la zone dans le cadre des opérations Retour de Bienvenue à la Paix ont promptement réagi et un élément de la LRA a été tué au cours de ces accrochages. Il faut noter que le 14 août 2014, 12 individus dont 5 femmes et 7 enfants de moins de 5 ans ont fait reddition dans la localité de Digba située à 45 km au nord d'Ango. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, soutenues par la force de la MONUSCO, poursuivent leurs opérations visant à mettre un terme aux exactions des miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri FRPI contre les populations civiles vivant dans les localités situées au sud du territoire d'Iru. Au nord Kivu, le climat sécuritaire jugé globalement tendu et imprévisible demeure cependant sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Dans le territoire de Beni, l'armée congolaise soutenue par la force de la MONUSCO poursuit avec succès l'opération Sukola 1 contre les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques ADF dans les localités situées au nord-est de la province. Les opérations de bouclage et de ratissage se poursuivent dans les régions situées autour de la rivière Abia pour neutraliser toute présence d'éléments résiduels de l'ADF. Cette pression militaire FRDC-MONUSCO a provoqué le 11 août 2014 la reddition auprès du sous-bureau de la MONUSCO de Butembo d'un officier supérieur de ce groupe armé, en l'occurrence le lieutenant-colonel Muhumuza, qui était commandant d'une unité ADF. Dans le territoire de Walikale, les opérations se poursuivent de manière satisfaisante contre les éléments du groupe Maïma Tcheka Défense du Congo. Le 18 août 2014, les FRDC ont initié dans la région d'Itebero, en direction de Hombo, des opérations pour neutraliser les éléments résiduels du groupe Maïma Irahia Mutomboki, auteur de nombreuses exactions contre les populations civiles, mais aussi pour y restaurer l'autorité de l'État. Le 12 août 2014, la police onusienne a rapporté que 17 éléments armés de l'ethnie Tutsi, supposés appartenir à l'ancien groupe armé rebelle du M23, ont été appréhendés et pris en otage par des éléments Maïmaï Kifouafoua à Remeka, situé à 20 km au sud-ouest de Ngungu. Les sources locales de la section DD3R de la MONUSCO de Kibati ont également fait état de l'arrestation le 13 août 2014 par les troupes des FRDC dans une ferme locale basée dans la localité subventionnée, située à 15 km au nord de Sake, l'arrestation de 4 éléments armés supposés appartenir à l'ancienne rébellion du M23. Les investigations sont en cours afin de déterminer la nature réelle de ces hommes armés. À ce jour, le camp de transit de Kanyabayonga héberge au total 305 pensionnaires ex-FDLR, dont 103 ex-combattants et 202 dépendants. Et du 17 août 2014 à ce jour, nous avons enregistré certaines redditions, un nombre peut-être pas très important, 6 redditions au total, en provenance aussi bien de l'ADF, des FDLR, mais aussi des NDC Tcheka et aussi un Maïmaï de la Force de Défense Congolaise FDC. L'environnement sécuritaire au sud Kivu, quant à lui, a été particulièrement marqué durant la semaine écoulée par des accrochages entre les troupes gouvernementales et les groupes armés actifs dans cette province, en l'occurrence, les groupes Maïmaï Rahia Mutomboki et les Maïmaï Yakutumba. Toutefois, les forces onusiennes et congolaises maintiennent la situation sécuritaire sous leur contrôle. En effet, le 12 août 2014, 8 éléments du groupe Maïmaï Rahia Mutomboki ont été tués et un soldat congolais porté disparu au cours d'accrochage à Kambeli, situé à 9 km au nord-ouest de Bunyakiri. Au total, 14 éléments Maïmaï Rahia Mutomboki ont été tués par les FRDC depuis le lancement des opérations contre ce groupe armé et 17 autres ont été blessés. Les troupes d'intervention rapide de la force de la MONUSCO déployées à Bunyakiri mènent dans la zone des patrouilles motorisées robustes dans le but de soutenir l'action des FRDC mais aussi de dissuader de nouvelles attaques. Les FRDC mènent également aussi des opérations contre les éléments Maïmaï Yakutumba dans certaines localités de la province. C'est ainsi que le 13 août, 2 insurgés Maïmaï Yakutumba ont été appréhendés par les forces gouvernementales au cours d'opérations à Kazimia, située à 60 km au sud-est de Baraka. au sud Kivu, le camp DDR, DD3R de Walungu abrite à ce jour 317 pensionnaires ex-FDLR, dont 83 ex-combattants et 234 défenseurs. Au Katanga, le climat sécuritaire dans plusieurs régions situées au nord et au centre de la province demeure volatile et imprévisible du fait de la présence et des activités négatives des groupes armés, notamment le groupe Maïma Yakutumba, mais aussi à cause des conflits ethniques opposant les communes Pygmées et Baloubakat. En effet, selon les informations fournies par la police onusienne, le commandant de la police de la milice Pygmée, nommé Mubone Mbuyu, a incendié entre les 10 et 12 août 2014 plusieurs villages appartenant aux membres de la communauté Luba, situés entre le sud et le nord des territoires de Kabalu et de Manono, et ceci en représailles des atrocités commises jadis contre les Pygmées. Selon l'Organisation pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, environ 16 680 individus ont été déplacés dans le territoire de Kabalo à cause des conflits intercommunautaires entre les Pygmées et les Luba. 2000 déplacés Pygmées se sont rassemblés dans la localité d'Ankoro et environ 3000 déplacés Bantous ont abandonné aussi leur village. Le 17 août, les FRDC ont lancé des opérations au nord du Katanga contre le chef rebelle Gédéon Moutanga au village Kibawa, qui abritait son état-major par ailleurs, où 4 armes AK-47 et plusieurs effets militaires ont été récupérés. Le secteur 2, quant à lui, est complètement calme et concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 1751 armées et 504 nocturnes et avons fourni 44 escortes pendant la période de sous-examen. Je vous remercie de votre attention.
Colonel Basse, merci. Nous restons toujours à Goma où nous allons retrouver notre invité qui est Jérémy Guillet, le directeur exécutif de Peace One Day. Je vous rappelle que Peace One Day organise le 21 septembre prochain un concert pour la paix pour la région des Grands Lacs. Alors Jérémy, est-ce que vous pouvez nous dire l'état de préparation de ce concert pour la paix à Goma?
Yes, thank you very much for the welcome. Firstly, I'd like to thank MINUSCO, the government of the DRC, the governor, the mayor, the RVA. Everybody has been incredibly supportive over the last few months.
Alors, je voudrais tout d'abord remercier la MINUSCO et toutes les agences des Nations Unies et bien sûr le gouvernement de la RDC, bien sûr les autorités de la RVA qui nous ont assistés de manière particulière les quelques mois qui sont passés.
Everybody knows we're running a three-year campaign in the Democratic Republic of Congo in the Great Lakes region of Africa to raise awareness of the day of peace that every government of the world voted for, to manifest action on this day, and of course to create concerts and make films to send the international community and the people of Africa a very positive, constructive story coming from this region.
Alors, comme la plupart d'entre vous le connaissent peut-être, nous sommes en train de travailler sur une campagne de paix pendant 3 ans. Qui a comme objectif de pouvoir faire connaître la journée internationale de la paix, la journée du 21 septembre, inciter toutes les parties à pouvoir prendre action et à célébrer cette journée en organisant différentes activités. Et bien sûr, nous le faisons également en dernier lieu au travers d'un concert, bien sûr, et la production de films qui pourront amener tout le monde à une grande célébration le 21 septembre.
I'm delighted to be able to inform you about is that the amount of commitments that are happening for the world's day of ceasefire and non-violence is extraordinary from governments, from the UN system, from NGOs, faith, schools, universities, domestic violence organizations. It's nothing but remarkable, not only here in the DRC, but also across the entire region. There's way bigger participation than we had anticipated in the first year of this three-year campaign.
Alors, comme nous devons le signaler maintenant, là, il y a une très grande mobilisation de la part de toutes les parties qui sont impliquées dans le processus pour lequel nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas tout simplement les ONG qui sont impliquées à l'organisation des activités le 21 septembre dans la ville de Goma, mais également beaucoup d'autres groupes de gens comme les universités, les écoles, les églises. Toutes ces personnes-là sont mobilisées à organiser des activités dans leur communauté et c'est une très grande mobilisation que nous n'avons jamais vue dans cette première phase de la campagne que nous sommes en train de mener dans la région des Grands Lacs.
And of course, as everybody knows, we every year for many, many years always create a concert in order to raise awareness of the incredible activities that are going on from human beings, around the world. The concert is a vehicle to allowing us to talk about the incredible peaceful activities that individuals and organizations are making.
Alors, comme vous le savez, depuis très longtemps, nous avons produit des concerts partout dans le monde qui ont comme objectif de pouvoir mettre ensemble toutes les activités positives que les communautés sont en train d'organiser. Et nous sommes heureux de pouvoir faire la même chose à Goma. Les concerts, c'est juste une petite partie pour nous qui nous permet de mettre en exergue le travail excellent que les communautés de l'RDC sont en train de faire et attirer l'attention de la communauté, toute la communauté internationale, tout entière à ce qui se passe en RDC, et beaucoup plus en se focalisant sur l'aspect positif des choses.
The venue will be incredible. The artists are absolutely amazing, as are the speakers, and we will be demonstrating on that night the incredible activities, the hundreds and hundreds of activities that are going on in the region on the day. The broadcast lineup is absolutely fascinating. We're bringing obviously satellites in to broadcast this out to the world. So I pretty much think that the mission of talking about the DRC and creating this very positive story that is about inspiring and empowering young people is very much on target, and we're very excited.
Alors, pour finir, nous sommes en train de dire que le concert va se tenir à un endroit merveilleux, l'aéroport de Goma. Il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà en train d'être mobilisés pour participer et faire la tête d'affiche de cette activité. Comme vous le savez bien, c'est avec l'objectif de mettre en exergue ou aux yeux de toute la communauté sur les différentes activités positives qui seront en train d'être réalisées cette journée-là par toutes les parties dont nous avons fait mention ce jour-là.
Thank you very much. Thank you.
Merci beaucoup.
Merci donc à Jérémy Guillet depuis Goma. Beaucoup d'informations dans cette conférence de presse, comme vous pouvez le constater. Nous venons de recevoir une dernière information en provenance du bureau de l'OMS de RDC qui nous dit ceci. Face à l'ampleur de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, avec près de 2240 cas confirmés, suspects ou probables, dont 1229 décès en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria, à la date du 16 août, la RDC a renforcé des mesures préventives et a réactivé son plan national de contingence. Celui-ci se chiffre à 2,3 millions de dollars américains selon le ministère de la Santé publique. L'objectif est d'empêcher l'introduction de cette maladie grave en RDC à partir des foyers épidémiques surmentionnés. À ce jour, la RDC n'a enregistré aucun cas de maladie à virus Ebola, mais les mouvements de personnes par avion interposés entre la RDC et les villes de l'Afrique de l'Ouest ont poussé les autorités de la RDC à mettre en place un screening médical systématique dans les principaux points d'entrée, aéroports et ports internationaux, notamment à Kinshasa, Lubumbashi et Goma. En termes de préparation et de réponse, l'OMS a déjà fourni officiellement aux autorités gouvernementales de la RDC 11 kits de protection personnelle, dont 4 à la Division provinciale de la santé de Kinshasa, 2 au Programme national de l'hygiène aux frontières, 2 au Programme national d'urgence et d'action humanitaire, 2 au Bureau provincial de l'OMS Kinshasa, d'autres kits PPE prépositionnés dans 11 provinces du pays sont mobilisables à tout moment par l'OMS. Voilà donc pour cette information. On me signale que 50 uniformes, un kit, ça fait 50 uniformes pour la lutte contre Ebola. Donc avec cette information, nous allons ouvrir la séance de questions-réponses. Je rappelle que nous avons autour de la table à Goma et à Kinshasa ici Joseph Potopoto pour les questions de développement, Martin Holstein pour directeur du PAM sortant pour le volet humanitaire. À Goma, nous avons Jérémy Guillet et Madame Brandenburg qui est le chef de l'unité de la section protection de l'enfance donc de la MONUSCO à Goma.